Elle a Milan, la ville. Elle résiste à l'usure du monde. Elle absorbe la terre, écrivait Vera Arendt dans l'âme de la ville. Elle est l'attrait de l'univers. Ville-monde après la Belgique, voyage vers l'Europe centrale et l'Autriche. Après Bruxelles, Babel, direction Vienne. Je suis ta course vers Vienne, mêlant ma voix à tes 100 000 voix, comme le racontait Valérie Larbeau dans l'Orient Express. Ville-monde, Vienne, escale première, nouvelle diffusion d'une de nos premières aventures Ville-monde. Bon voyage sur France Culture Sans Frontières.
Bernard, c'est Christine.
Bonjour. Ça va?
Bonsoir.
Alors?
Ville-monde, Vienne, l'esprit de la ville.
Et alors pour le son... Est-ce qu'il y a un son... Qu'est-ce qui fait un son de la ville, le son d'une ville?
Les gens... La vitesse.
La vitesse.
Évidemment, il y a une vitesse viennoise, il y a une vitesse new-yorkaise. Mmh. C'est tout à fait différent. Hein. Mmh. Et comme les gens marchent, même l'architecture, ça fait une grande différence. Mmh. Hein.
Mmh. Il y a un vent extraordinaire aujourd'hui.
Un vent?
Ouais. C'est le fun déjà ou...
Non, je crois pas. Non, c'est pas le fun. Le vent, c'est vraiment c'est trop beau parce que ça choue avec les feuilles, les arbres, même avec les gens, c'est bien.
Si vous aviez Ruth Beckerman un instantané, comme ça, là, à créer avec votre œil et votre caméra sur votre ville de Vienne, ce serait quoi?
Et j'ai pas vraiment tourné Vienne. Dans mes films, on voit presque rien de Vienne. Dans le film Pont de papier, on voit Vienne que derrière les vitres d'un tram ou d'un bus ou d'un café. Dans mon film Retour à Vienne, on voit que des archives d'un Vienne avant-guerre. J'ai pas fait des images de Vienne, je crois que c'est très difficile. Ça serait très difficile pour moi. J'ai un projet dans ma tête que je vais peut-être jamais faire, mais j'ai envie de marcher autour de Vienne. Peut-être pas avec une caméra, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, de faire tout le tour de la ville, de voir où la ville s'arrête, où les Wienerwald, le Wienerwald, oui, la forêt viennoise qui fait une grande partie de la frontière de la ville. Oui, ça m'intéresse de faire ça, mais... Tourner Vienne, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit pas un film touristique de carte postale.
Ich mag die Wien, das ist.
J'aime la Vienne, la rivière qui longe la ville. Ce n'est pas le Danube qui passe à Vienne, il passe à l'extérieur de la ville.
Arnaud Geiger,
Und dieser kleine Fluss, das ist da.
C'est une toute petite rivière, un filet d'eau crasseux coincé dans un canal. Les rives sont toutes noires.
Steinbett gezwängt, daneben fährt die U-Bahn.
Le métro passe à côté.
Also,
il est lui-même encastré dans la pierre.
Ein Steinbett gezwängt, die, das ist eine
là où j'habite, le paysage est complètement urbain.
Also da, da
avec toute cette circulation,
die Stadt so etwas
le bruit du métro qui passe,
die U-Bahn fährt im Freien,
les voitures sur la rive gauche de la rivière.
Wirklich sehr urban, sehr von
la ville,
gemacht,
ici, a quelque chose d'industriel,
also,
de très
sage,
urbain. Elle est complètement façonnée par l'homme.
Gemacht,
on dit que les villes naissent de la main de l'homme
gegeben,
et que la campagne est un don de Dieu.
Wohne,
et on le voit bien ici, gemacht. Tout est construit par l'homme.
Vous avez un plan de Vienne ?
Oui.
Alors, il faut quand même... Alors, je note... un petit oui, c'est ça, ça c'est bien. Ok, voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Alors, il y a des tas de possibilités. Alors, je vais même parler avec Franz Schuh.
Ouais.
Il a fait une suggestion, c'est là. Keplerplatz,
ouais.
10e arrondissement.
Ouais.
Parce que là, il y a un mélange de langues incroyable.
C'est le favori.
C'est favori, oui,
ouais.
Exactement. Alors, ça, Keplerplatz.
Mm-hmm.
Et tout à côté, il y a des Adler, marché Adler, Adlermarkt.
Mm-hmm.
Alors là, il y a vraiment... Vienne est devenue une ville très métropolitaine.
Mm-hmm.
Hein, ça a beaucoup changé,
ouais,
depuis 15 ans.
Ouais, ouais.
Et c'était un peu comme 1900 maintenant.
Mm-hmm. Nouveau tournant du siècle.
Ce qui concerne les langues, pas l'esprit. Pas du tout, l'esprit est tout à fait différent.
Quand vous vous promenez aujourd'hui dans la ville, surtout au centre, vous entendez toutes les langues, du russe jusqu'au français. Il y a beaucoup d'étrangers qui habitent à Vienne, qui travaillent à Vienne. Vienne n'est plus une ville homogène, même si ça crée des problèmes comme partout.
Qui sont les étrangers aujourd'hui à Vienne?
Surtout le Turc et les gens de l'ex-Yougoslavie, des Roumains aussi, beaucoup de gens de l'Europe de l'Est.
Arnaud Geiger, est-ce que vous avez un quartier de prédilection, des lieux, des rues qui seraient devenus votre chez-vous?
Oui, ça s'est fait un peu au hasard. À l'époque où j'étais étudiant, je suis venu m'installer dans ce quartier du Naschmarkt. Et puis j'y suis resté. C'est tout près du marché aux puces, le long du canal de la Vienne. Et je m'y plais beaucoup. Je crois que l'on ne peut s'approprier une ville que si l'on en capte la régularité. Pour le touriste qui arrive, la ville n'est qu'un immense brouhaha, un grouillement informe. Mais celui qui y vit depuis plus de 20 ans et qui, comme moi, habite toujours le même quartier, perçoit dans ces grouillements informes des régularités.
Depuis la chute du mur et l'ouverture du rideau de fer, Vienne est à nouveau l'épicentre de grandes migrations. Comme au siècle dernier, des milliers d'étrangers reprennent le chemin de l'ancienne capitale impériale. Dehors, la ville-musée somnole. Les calèches tournent en rond, Mozart à l'opéra, Klimt au Belvédère et Sissi à Schönbrunn. Vienne n'est pas Berlin. Indolente, elle a toujours pris son temps face au changement. mais les apparences sont toujours trompeuses à Vienne. À mille lieues de la carte postale vendue aux touristes, ceux qui font aujourd'hui l'esprit de cette ville sont aux aguets. Dans les cafés perdus ou les mansardes de leurs pensées, les artistes viennois expérimentent ce que sera demain. Bernhard Leitner est le pionnier de l'architecture sonore. Depuis plus de 30 ans, il redessine l'espace urbain. Il nous accompagne à l'est de la ville, tout près de la grande roue du Prater, dans un quartier sans charme et bruyant du second arrondissement, où il a installé un champ sonore en guise de place publique.
Alors on entre un dôme, une coupole, qui se court sur une place de presque 300 mètres carrés. Et on voit, maintenant on est à l'intérieur, on voit la circulation.
Mais on l'entend presque
plus. L'entend presque plus. Les gens traversent cette place. Il y a quelques-uns qui se rendent compte de la qualité de cet espace. Les autres, pas du tout, parce qu'ils ont les têtes et les oreilles ailleurs. Mais ça fait rien. Je dois dire que le champ sonore s'articule seulement quelques moments pendant la journée. C'est pas toute la journée comme ça. C'est une heure le matin, une heure à midi, une heure l'après-midi et le soir. Le week-end, beaucoup plus. C'est très bien qu'une architecture sonore fait l'apparition et disparaît. Ça, je trouve, c'est très bien. C'est vraiment une qualité tout à fait nouvelle avec les espaces urbains. Avec la neige, le chant sonore se tait. Alors il y a le silence parfait, parce que les sons ne peuvent pas voyager entre les 13 sources sonores. Il n'y a pas de contact. Avec la pluie, les mouvements sont... On a l'impression que les mouvements sont...
Engourdis, ralentis,
pas aussi souples. Pour moi, c'était assez intéressant d'essayer ce démarche, de travailler avec l'acoustique dans le milieu urbain. Alors, on peut très bien définir, même dans les endroits avec une cacophonie incroyable, on peut créer des lieux presque de méditation en plein air, bien définis. Alors vraiment, il y a des tas de choses à découvrir dans cette direction-là. Et cette place, le champ sonore, ici à Vienne, est la preuve qu'on peut travailler avec les moyens acoustiques dans le planning de nos villes.
Vienne est donc entrée dans une nouvelle ère qui recompose aussi l'espace urbain. Au centre de la ville, en plein quartier populaire, une gigantesque gare centrale va bientôt relier Vienne à la grande circulation planétaire.
Trains, Europe Express. 37, 38, 40, 41, 42, 43 und 44.
Wolfgang Förster, Vienne était une capitale avec de nombreuses gares, la Westbahnhof, la Südbahnhof, Wienstadtmitte, et c'était une ville capitale sans gare centrale. C'est une chose qui va changer aujourd'hui.
Ce projet énorme de gare centrale ne va pas seulement changer les transports à Vienne, mais il va modifier profondément la ville en général. Il sera désormais possible que les trains traversent Vienne pour aller de l'Europe de l'Ouest à l'Europe de l'Est, ou de l'Europe du Nord à l'Europe du Sud, jusqu'aux Balkans. Et Vienne, conformément au projet de l'Union européenne, va devenir le nœud ferroviaire de l'Europe centrale, le carrefour où tous ces trains vont se croiser. Il est important pour nous que Vienne retrouve son ancien rôle de centre au sein de cette partie de l'Europe, c'est-à-dire dans une Europe centrale sans frontières, où l'on peut circuler dans les pays voisins, et que Vienne consolide à nouveau sa fonction politique, économique et culturelle.
Qu'est-ce que va permettre cette nouvelle gare? Par exemple, en combien de temps on va pouvoir aller à Budapest ou à Prague?
On
va pouvoir atteindre Budapest en 2 heures, Prague en 3 heures, Munich en 3 heures et demie. Il y aura aussi des trains directs de Zurich à Varsovie et de Stockholm à Belgrade.
C'est très étrange, on a l'impression que cette gare est construite comme une suite de tentes. Est-ce que c'est juste?
C'est vrai, la gare a la forme d'une série de tentes transparentes. Elle a été conçue comme une composition musicale, ce qui reflète bien l'image générale de Vienne. Mais la tente, c'est également le symbole du nomadisme, du progrès, du déplacement. Elle évoque tous les voyages qui commenceront ou se termineront dans cette gare.
Vienne va devenir la grande tente de l'Europe.
Ja, hoffen wir das.
On l'espère.
Ebene 5.
Nous sommes tout en haut de la plateforme qui a été aménagée au-dessus du chantier de la nouvelle gare centrale. C'est une grande tour en bois d'environ 80 mètres de haut qui offre aussi une vue magnifique sur toute la ville de Vienne. À l'horizon, les grands immeubles sur le Danube, la vieille ville avec ses clochers, la mairie. Et tout derrière, on a de la chance, on a une très belle vue aujourd'hui, les collines de la forêt viennoise et puis toute cette zone très dense de construction qui date en grande partie du 19e siècle. De l'autre côté de la plateforme, c'est le 10e arrondissement, le plus grand de Vienne, avec environ 200 000 habitants. Cet arrondissement s'appelle Favoriten, ce qui est un petit peu ironique parce que ce n'est pas un arrondissement particulièrement favorisé, c'est même tout le contraire. C'est le quartier ouvrier typique, avec une identité politique et culturelle très marquée. Il y a toujours eu beaucoup d'immigrants ici. Auparavant, ils arrivaient d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, ils viennent avant tout de Turquie. Ce fut également le berceau du mouvement ouvrier au 19e siècle. C'est ici qu'a été fondé le Parti social-démocrate autrichien. C'est donc un arrondissement avec une identité très forte. Il est donc particulièrement important à nos yeux de ne pas faire de ce nouvel espace autour de la gare centrale une île, un ghetto pour classe moyenne, mais de créer des passerelles avec ce vieux quartier.
Thank you.
Entschuldigung, können wir zwei Mokka haben? Bitte.
Zwei Mokka.
Saveur Bayer est né à Vienne il y a à peine plus de 30 ans. Surgissant de nulle part, un sac plastique rempli de noix à la main, il nous a donné rendez-vous dans un café perdu près du Prater. Dans la grande tradition autrichienne, Saveur Bayer enregistre dans ses romans la perte de l'image du monde. Saveur Bayer, pourquoi vous nous avez donné rendez-vous dans un café qui s'appelle le Café Els, assez loin du centre de la ville? J'imagine que ce n'est pas à cause de la Frau Els de Schnitzler.
Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Frau Els ist die Besitzerin, die können Sie hinten in der Ecke sehen. Und ich habe Sie hier eingeladen, weil ich sehr gerne hier bin und oft schreibe.
Non, ça n'a rien à voir avec Else de Schnitzler, mais c'est bien la dame propriétaire de cet établissement qui se trouve là-bas, que je connais bien, et qui est la raison pour laquelle je vous ai prié de me rencontrer ici, parce que c'est ici souvent que j'écris, je suis bien à l'aise.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce café et cet environnement de Vienne? Où est-ce qu'on se trouve ici? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est ces zones un peu, ces no man's land que vous explorez aussi dans vos romans?
Mittlerweile nicht mehr. Früher war das eine recht billige Gegend. Dann sind die Künstler gekommen, dann die Studenten und wenn ich Pech habe, schaut es bald so aus wie in Marais in Paris.
Au début, il y a les artistes qui prennent leur appartement ici, et après, il y a les étudiants qui viennent, et si je n'ai pas de chance, ressemblera bientôt au Marais à Paris.
Und ich muss dazu sagen, dass solche Orte immer seltener werden.
Il faut ajouter que ces lieux sont de plus en plus rares, aussi à Vienne, comme aussi quand je suis allé à Paris récemment, je n'ai plus du tout trouvé les cafés que j'aimais bien, Place de Clichy par exemple, mais je n'ai que trouvé des autres établissements que je n'aime pas du tout.
Und zum Viertel hier lässt sich auch sagen, dass.
Et en ce qui concerne cette région de la ville, ici, cet arrondissement, on doit dire que c'est tout près du Prater, de l'arrondissement de l'amusement, du parc d'amusement de Vienne, où il y a pas mal de bordels, de cafés pas chers et des guinguettes à alcool. Et toute cette ambiance est en train de disparaître, malheureusement.
Und hier darf man noch rauchen.
Il est aussi permis de fumer encore.
Et qu'est-ce que vous observez ici, Saveur Bayer? Est-ce que vous avez besoin du réel, de regarder les gens qui sont en face de vous, peut-être des existences comme celle que vous décrivez dans vos romans, perdus, sans repères, des gens anonymes? Est-ce que vous puisez dans le café votre inspiration, ou est-ce que c'est votre monde intérieur qui parle?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich denke, dass die Menschen hier viel mehr Halt haben und viel menschlicher sind als die Mehrzahl der Leute, die in etwas schickeren Lokalen sitzt. Also ich komme auch hierher zu arbeiten, weil hier sitzen keine Arschlöcher mit iBook-Computern herum und man fühlt sich nicht so als Klischee. Wenn ich jetzt in einem Wiener Kaffeehaus sitzen würde und schreiben würde, käme ich mir wie ein Klischee eines Wiener Schriftstellers vor.
Non, pas du tout. Au contraire, je crois que les gens qu'on rencontre ici sont beaucoup mieux dans leur peau que les gens qu'on trouve dans les cafés de Vienne ou du centre de Vienne, parce que je déteste les gens qui se trouvent là et je penserais que je suis comme une caricature d'un écrivain de me trouver dans un café du centre et d'observer les gens et d'écrire sur ces gens-là.
J'ai ici un Hafen, où je...
Il faut dire que ici je suis bien et je me sens pas du tout obligé de décrire les gens que je peux observer ici. Ici c'est plutôt comme un refuge pour moi où je suis tranquille pour écrire mes romans.
Est-ce que vous avez, comme la plupart de vos collègues autrichiens et plus particulièrement viennois, la tentation parfois de partir?
Moi, je vois Vienne plutôt comme un lieu duquel on peut partir très bien tout le temps, et c'est un lieu où on peut remplir ses batteries, un lieu d'un dépôt, comme une remise. Et moi, j'ai toujours la possibilité de m'en aller à la campagne où mes parents ont une maison. C'est pas très loin d'ici, c'est 3 quarts d'heure vers le nord, Weinviertel, où je peux toujours aller pour écrire mes romans. Et je peux toujours retourner à la ville. Et c'est ce va-et-vient qui me convient complètement pour mon travail.
C'est pour moi l'idéal.
Vous savez, Xaver Bayer, en France, vous commencez à être un peu connu, votre nom se murmure et vous êtes très associé à Handke. Vous êtes à peine connu en France que vous êtes déjà le neveu de Handke. Est-ce que vous acceptez cette histoire-là?
Wenn dem so ist, dann wäre es schön, wenn einmal ein Buch von mir ins Französische übersetzt wird.
Bon, ce serait bien si c'est comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'un de mes livres soit traduit en français, en ce cas-là. Moi, je me sentais toujours très apprécié par Handke. Je lui ai envoyé mon premier livre et il l'a bien aimé. Et quand je vais à Paris, je rencontre Handke d'habitude. On prend un café ou un verre de vin.
Un glas de vin, vielleicht dann auch noch.
Xaver Bayer, il y a un de vos textes qui se termine par cette phrase: ist irgendwie zu spät. Il est, d'une certaine façon, il est trop tard. Est-ce que c'est votre une phrase qui pourrait résumer votre conception du monde?
Ja und nein, ich habe auf der einen Seite schon oft das Gefühl, gerade in Europa, dass...
Oui et non, effectivement. En Europe, j'ai l'impression qu'on se trouve dans une sorte d'arrière-saison. Mais d'un côté, je trouve qu'il est trop tard, mais d'un autre côté, si je pensais ça, je n'écrirais pas.
Habe ich diese beiden Regungen in meiner Brust.
Arno Geiger n'est pas né à Vienne. Il a pris le chemin de la capitale à l'âge de 20 ans. Pour cet éternel enfant qui a grandi à l'autre bout du pays, Vienne est la grande ville moderne par excellence. Un lieu idéal pour la découverte de soi, l'imagination romanesque et les escapades à vélo.
Ich fahre viel Fahrrad in der Stadt.
Je circule beaucoup à vélo dans la ville, ce qui est très caractéristique du campagnard que je suis. À Vienne, ce sont surtout ceux qui viennent de la campagne qui sont à vélo. Ils en font depuis qu'ils sont petits. Les Viennois, eux, sont beaucoup plus prudents. Je roule très vite. Je ne respecte aucun sens interdit. Je ressens une sorte de... Dans la vie, je ne suis pas du tout quelqu'un d'aussi dynamique. Mais là, quand je fais du vélo, avec le vent qui s'engouffre dans mes narines, tout va un peu plus vite. Les gens, la ville, alors que Vienne est tout sauf rapide, il faut bien l'admettre. La ville devient aussi plus petite, car je peux aller partout en si peu de temps. J'aime bien faire du vélo. Ça a quelque chose de... Je ne sais pas, je pense bien à vélo. Je rêve aussi. Mais parfois, il faut que je fasse attention à ne pas être trop distrait, à ne pas me perdre dans mes rêveries. Voilà Vienne et Arnaud Geiger. C'est du moins comme cela qu'on les voit parfois.
Quand êtes-vous arrivé à Vienne?
Ich bin im Jahr 1990 nach Wien gekommen als 22-jähriger.
Je suis arrivé à Vienne en 1990. J'avais 22 ans. J'étais étudiant.
Unglaublich einschneidend.
Ça a été très important pour moi. Incroyablement décisif.
Aufgewachsen, ganz im äußersten
J'ai grandi
Westen,
en province,
an der Grenze zur Schweiz,
à l'extrémité ouest du pays. À la frontière avec la Suisse,
Paris,
aussi loin de Paris que de Vienne,
à 700
kilomètres.
In mancher Hinsicht finde ich es schade für die jungen Menschen,
Et je trouve dommage pour les jeunes de Vienne qu'il n'aient pas à s'en aller, à quitter la maison pour partir à la ville.
Vom Land in die Stadt.
C'était à l'époque un tournant, une transition entre deux moments.
Wie ich mich in einem Zwischenreich befunden habe,
c'était une phase intermédiaire pour moi, comme pour Vienne.
Ein großes Kind,
moi qui n'étais plus un grand enfant et pas encore tout à fait adulte, et Vienne qui n'était plus une grande nation et pas encore dans le renouveau.
Das war ganz gespenstisch. Einerseits das
une période
über
assez fantomatique.
Noch geschrieben hat,
L'ancienne Vienne que décrivait Thomas Bernhard était encore là.
Verkrustete Wien, die vielen, ich
Cette Vienne bourgeoise, conservatrice, un peu sclérosée. Je m'en souviens très bien. Toutes ces vieilles dames avec leurs petits chiens et leur air grincheux.
Die muffigen Mietshäuser, also das ganzen spezifische
Tous ces immeubles qui sentaient leur enfermé. Cette odeur très particulière de moisie qui s'échappait des vieilles bâtisses.
Und auf der anderen Seite der frische Wind, also der eiserne Vorhang, der
Et puis en même temps, il y avait ce vent nouveau qui soufflait. Le rideau de fer était tombé en 89-90. Ce rideau de fer faisait partie du paysage européen, comme les monts Oural ou les Pyrénées. D'un seul coup, Vienne se retrouvait à nouveau au cœur de l'Europe, pleine de vie et face à de nouveaux défis. Un élan, une dynamique qui correspondait parfaitement à l'âge que j'avais à l'époque.
Also man entgeht seiner Epoche nicht und schon gar nicht,
on n'échappe pas à son temps, et encore moins quand on arrive jeune dans une métropole. Comme je vous l'ai dit, cela a été pour moi une expérience tout à fait décisive.
Die Stadt zur Verfügung
J'avais une ville entière
da
à moi.
Plötzlich all diese Möglichkeiten da.
Toutes ces possibilités qui s'offraient à moi. Et précisément dans une ville qui était elle-même confrontée avec la nécessité d'évoluer.
Weitergehen kann. Im finsteren
Vienne ne pouvait pas continuer à vivre comme ça.
Also ganz
coincé dans un sombre
getrennt,
recoin de l'Europe de l'Ouest.
Mit 30 Kilometer
à 30 Kilometer du rideau de fer.
Est-ce que vous diriez que Vienne, à cette époque, a commencé à redevenir un laboratoire comme au siècle dernier?
Im kleineren Stil. Das, also,
à plus petite Wien, échelle, oui.
Zur Wende vom 19. zum 20. Wien, Jahrhundert,
au tournant du 20e siècle,
und das war,
c'était une métropole mondiale.
In vielerlei Hinsicht eine Weltmétropole,
un véritable melting pot.
Die Hauptstadt eines vielvölkischen
L'Autriche
Reiches,
était un empire pluriethnique.
Ich glaube, nach Russland das bevölkerungsreichste Land Europas.
Je crois que c'était le pays d'Europe le plus peuplé après la Russie.
Österreich 8 Millionen Einwohner.
Alors qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme 8 millions d'habitants en Autriche.
Das ist natürlich ein Unterschied.
Cela fait vraiment une différence.
Ist Wien auf dieser Schnittstelle
mais à plus petite échelle, Vienne est restée cette passerelle entre Est et Ouest. Et pour moi, c'est quelque chose de magnifique.
Als großartig, als schön,
je trouve cela beau, qu'il n'y ait rien de pur à Vienne.
In Wien, diese Idee von Reinheit,
cette fameuse idée de pureté. Vienne est toujours un melting pot. C'est merveilleux.
Und das ist tatsächlich unser modernes Leben.
Et ce mélange caractérise notre vie moderne.
Also,
c'est très important.
Gesellschaften geworden sind.
Cette façon qu'ont les sociétés de devenir plus dynamiques. Plus féconde,
auch, weil es nichts Klares mehr
mais
gibt.
Plus déconcertante aussi.
Gar nichts Stabiles mehr.
Il n'y a plus rien de clair, plus rien de stable.
Ist etwas Stabiles, mit dem Fluss
Vienne est encore
und
là,
mit den
avec son fleuve et ses trois ou quatre monuments historiques.
Aber rundherum ist alles in Bewegung.
Tout est en mouvement.
Et vous dites que Vienne est devenu votre lieu de travail.
Ja, ich wollte
oui.
Tatsächlich in die Anonymität
je voulais me plonger dans l'anonymat de la grande ville.
Und dort frei sein, ein Gefühl
je voulais être
frei,
libre, avoir un sentiment de liberté.
Finden, und ich habe das
et
gefunden.
Je l'ai trouvé.
Also ich genieße die Anonymität der
je savoure cet
Großstadt.
Anonymat de la grande ville.
Und das verbinde ich mit
et pour
mit
moi,
Wien,
c'est associé
Wohnung,
à Vienne,
die richtig
aux quatre so murs de mon appartement,
hat, abgekapselt, wie in einem
où je vis
Raum
enfermé comme dans un vaisseau spatial qui flotte au milieu de
Stadt,
l'univers,
das ist wie ein Weltall, das,
avec la ville autour de moi,
steht, dass ich
que
nicht
j'ai
immer
à ma disposition.
Nutze,
je ne sors pas toujours,
Hause,
je reste souvent chez moi, mais le simple fait que la ville soit là, c'est formidable pour moi.
Und dann tut es mir gut, wenn ich von Vorarlberg,
et cela me fait du bien à chaque fois quand je repars du Vorarlberg, où j'ai grandi et où je passe beaucoup de temps, de revenir à Vienne, de claquer la porte derrière moi, ou bien de me plonger dans l'anonymat de la ville.
Êtes-vous un promeneur dans la ville ou un observateur, ou les deux?
Je ne sais pas, je suis plutôt quelqu'un de sociable.
Also durchaus mit Freunden
je parle avec mes amis, avec les gens que je connais. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime bien discuter avec les gens.
Ich finde nicht, dass das Spazierengehen und das Herumschauen
la promenade
so
ou le simple regard ne me permet pas d'atteindre les choses à la profondeur où je souhaite les atteindre.
Ich bin neugierig und als Literat, als Schriftsteller glaube ich, dass letztlich Literatur immer
je suis incroyablement curieux. Et en tant qu'écrivain, je considère que la littérature est bonne quand elle est intime.
Vielen Menschen,
j'ai toujours été fasciné par tous ces gens que je voyais,
bei denen ich mir
tous ces visages
habe,
que je rencontrais.
Der
je me disais,
interessant aus. Mit diesem Menschen
tiens,
ich gerne
lui,
befreundet
il a l'air intéressant.
Irgendwie, da ist was, mich würde das interessieren.
J'en ferais bien un ami, ou j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans sa tête.
Hineinschauen können. Und das ist eben, für mich, das ist das
c'est cela qui est intéressant pour moi, ce sont les gens.
Sind die Menschen. Städte, das ist,
la ville, c'est la toile de fond,
die Kulisse.
Und in et dans ces coulisses,
da ist so viel
fourmis des choses mystérieuses. Aujourd'hui, le monde entier est découvert. La terra incognita, ce sont les hommes.
Thank you.
Ruth Beckermann habite Vienne depuis près de 60 ans. Partir ou rester, elle s'est toujours posé la question. Enfant de l'après-guerre, née après la Shoah, elle est pour ainsi dire la pionnière d'un nouveau genre de cinéma, le documentaire d'auteur. De New York à Jérusalem, en passant par Tchernowitz et le café en bas de chez elle, Ruth Beckermann filme les multiples visages de l'exil et démêle en même temps les fils de sa propre histoire.
Pourquoi Ruth Beckermann ce besoin de filmer le réel, de l'observer et de le filmer plutôt que de le vivre tout simplement?
Je filme, je vis. Est-ce qu'on vit le réel? On vit toujours sa propre fiction, son propre rôle aussi. Je croirais le réel comme réel n'existe pas vraiment. Les frontières entre réel et fiction sont assez floues, je crois. Et mes films, même si je filme des documentaires, je filme les gens, les situations, les paysages, les villes, les endroits qui existent, qui ne sont pas décorés pour le film. Ils ne sont pas changés, pas des acteurs. Mais mes films sont quand même pas que le réel. Mes films ne sont pas des fictions, mais sont des essais ou des films d'auteur, je dirais. Parce que déjà, les décisions où mettre la caméra et surtout le montage construit un réel. On est toujours dans la construction du réel, même si on raconte l'histoire de sa propre vie. Si je raconte l'histoire de ma vie aujourd'hui, elle sera différente que demain.
Je vous pose cette question parce qu'on a l'impression qu'avec vos films, il y a une volonté d'aller derrière le décor, d'aller derrière la façade. La façade, par exemple, des mythes que Vienne s'est construit.
Oui, c'était tellement évident pour moi que l'histoire autrichienne, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le nazisme était plein de mensonges. C'était que de mensonges. Et j'ai souffert de ça quand j'étais petite. J'ai souffert de ce tabou, de la haine cachée ou qui est sortie quand même. Et c'était très important, même
nécessaire
pour moi, de regarder derrière les rideaux, de fouiller, de me renseigner, de chercher mon histoire. Surtout mon histoire. J'ai commencé à chercher mon histoire en cherchant l'histoire des Juifs à Vienne. Personne ne se souvenait à l'époque. Quand j'ai commencé, je faisais un livre sur le deuxième arrondissement, qui était aussi traduit en français d'ailleurs, Die Matzesinsel. Et avant la guerre, il y avait 2/3 de la population était juive. Et moi, qui a vécu si près de ce endroit, quand j'étais petite, je ne connaissais rien de cette histoire. Parce que les juifs qui sont venus à Vienne après la guerre ne sont pas les mêmes qui étaient là avant. Ceux qui étaient là avant, qui ont survécu la guerre et la Shoah, sont restés aux États-Unis ou en Israël. Et les Juifs d'aujourd'hui, ou qui sont venus après la guerre, sont venus de l'Europe de l'Est. Et ils n'avaient aucune idée que le deuxième arrondissement était comme le sentier ou comme le marais avant la guerre. Et là, j'étais vraiment étonnée. J'ai commencé à comprendre que toute cette histoire est coupée, que je suis complètement coupée de mon histoire. Et je ne voulais pas rester ici, mais les sujets étaient quand même tellement intéressants que je suis toujours retournée pour faire un autre livre ou un autre film.
Was mich interessiert, sind die Menschen, die diskutieren und gestikulieren und intrigieren und studieren und einfach nur vorbeispazieren. Sie mag ich filmieren.
Ja, Makarellstraßen. Kennst du den Witz? Und dann trinkst du den nächsten, das schreibt dann hinaus. Da ist der beste Schneider von der Welt. Sie bleibt nur einer übrig und der denkt sich, was soll ich da schreiben? Schreibt aus, ja, da ist der beste Schneider von der Gossen.
Ja, klar. Oui, c'est important pour moi. Je suis partie plusieurs fois de Vienne. Je suis toujours rentrée, retournée. Quand j'étais jeune, je voulais toujours partir, ne pas vivre dans cette ville. Et depuis 10 ans, je dirais, je trouve que Vienne a plutôt changé. J'aime bien vivre ici. C'est pratique pour moi. Ici, ma maison est assez près de l'aéroport. Et c'est pour moi, c'est très important de partir souvent de Vienne. Mm. Et même mon fils, qui a 20 ans aujourd'hui, il adore Vienne. Il a beaucoup d'amis, il aime Vienne. Et il a dit, il faut partir parce qu'ici, on ne fait rien. Même pour les jeunes, ça c'est l'aspect de facilité de la vie. Encore une ville où on peut vivre avec pas trop de moyens. Mais ça va changer, même ici. Et ça fait qu'on se sent un peu, on devient un peu paresseux.
Cette indolence viennoise.
Oui.
Vous vous réveillez toujours avec votre caméra, c'est votre moyen de ne pas vous endormir.
Non, je fais aussi autre chose que faire des films, quand même. Non, je pars beaucoup. Je suis, pour moi, la situation idéale d'avoir deux endroits où je vis pour être en
mouvement.
Mouvement. Oui, c'est le ça. Mouvement est très important. Le mouvement à pied et le mouvement, j'aime pas les avions, mais le mouvement. Penser un mouvement aussi. Et il faut bouger pour penser. Comme a déjà dit Rousseau, qu'il pense qu'en marchant, quand il arrête à marcher, il arrête à penser.
D'où le cinéma, les images en mouvement.
Oui.
Robert Ménas aime sa ville autant qu'il la déteste. L'essentiel de son temps, Ménas le passe dans les cafés, où il compulse un à un tous les journaux. Nous l'avons rejoint près du marché aux puces, au café Sperl, où il a sa place attitrée. Comme avant lui, Hugo von Hofmannsthal, Sigmund Freud ou Stefan Zweig, Robert Ménas est l'écrivain viennois par excellence. Peut-être le dernier héritier de tous ceux qui furent jadis l'esprit de cette ville avant d'en être chassés.
Robert Ménas, vous êtes parti de Vienne plusieurs fois dans votre vie. On a l'impression que pour écrire un roman, pour vous, il faut partir d'abord quelque part, partir de Vienne.
Oui, c'est vrai. J'ai passé une grande partie de ma vie adulte dans d'autres villes, à l'étranger. J'ai passé 8 ans à Sao Paulo, au Brésil. Et puis pendant 10 ans, j'ai pratiquement vécu tout le temps à Amsterdam. Aujourd'hui, j'habite en partie à Bruxelles. J'ai aussi séjourné un temps à Berlin. J'ai vraiment le sentiment d'être viennois quand je ne suis pas à Vienne. J'éprouve un grand soulagement quand je peux prendre de la distance, quand je peux porter un regard complètement distancié sur Vienne ou sur l'Autriche. Et cette distance, je l'ai aussi bien entendu quand je m'éloigne géographiquement.
Robert Ménas, est-ce que vous avez un roman en gestation? Est-ce que vous avez un projet de roman? Est-ce que ce projet de roman sera viennois?
Vienne est aujourd'hui une ville au sein de l'Europe, l'une des capitales de l'Union européenne. Pour écrire un roman qui reflète vraiment la réalité d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait aller là où cette réalité était produite. Et ce lieu, c'est Bruxelles. Je suis donc en train d'écrire un roman qui se passe à Bruxelles, dans les grands couloirs des institutions européennes. Et j'essaie de pénétrer à l'intérieur de cette machine qui est en train de produire la réalité de ce continent. Et cette réalité produite est différente de celle qu'elle paraît être à l'intérieur de chaque État européen. Elle est autre que ce que croient les Parisiens. Elle est autre que ce que croient les Viennois. Ce projet me fascine et j'imagine ou je voudrais pouvoir imaginer la fin des États-nations et rêver à une vie paisible et harmonieuse dans une Europe des régions. Dans ce roman, je tente aussi d'imaginer la prochaine rupture historique, celle qui se produira le jour où le dernier survivant des camps viendra à disparaître. Car ce jour-là, cette histoire sera aussi éloignée de nous que l'est l'ère néolithique. Que se passera-t-il alors ? Et le roman commence avec l'organisation des fêtes du 70e anniversaire de l'Union européenne, qui est à la recherche de la grande idée, du symbole qui devrait être au cœur de ce jubilé. Et comme l'idée fondamentale à l'origine de la construction européenne était qu'il n'y ait plus jamais Auschwitz, qu'il n'y ait plus jamais aucun conflit entre les nations qui mènent à un
Auschwitz.
On décide donc de mettre les survivants des camps au cœur de cette manifestation. Mais chaque État au sein de l'Union a sa propre manière de voir. Les Polonais sont contre, les Lituaniens disent que les Russes étaient bien plus terribles qu'Hitler. Bref, il y a de terribles discussions et pendant ce temps-là, les survivants meurent les uns après les autres. Il est vrai qu'ils sont très vieux, ceux qui ont survécu. Jusqu'au jour où il ne reste qu'un seul homme à avoir survécu dans les camps, le dernier juif. Mais je n'en dirai pas plus.
Robert Ménas, vous diriez de Vienne que c'est une ville-monde?
Vienne, métropole mondiale, n'existe que dans les cafés. Et c'est unique au monde, il faut bien le dire. Quand on entre dans un café à Vienne, on a toute la presse internationale à sa disposition. On a Le Monde, on a El País, on a la Frankfurter Allgemeine Zeitung, on a Die Zeit, on a tous les grands journaux internationaux. On est dans un café à Vienne et c'est comme si on était dans le monde entier. Mais dès qu'on sort du café, on retombe dans la province. Les touristes ne comprennent absolument pas ça. Les touristes croient arriver dans une ancienne ville impériale, une métropole, une capitale européenne. J'ai pitié d'eux. Ils n'y connaissent absolument rien. Vous venez me voir aujourd'hui à un moment historique, car ce que nous sommes en train de vivre était totalement impensable dans l'histoire de cette ville auparavant. Vienne, et pas seulement en tant que capitale d'Autriche, a toujours eu le désir de jouer un rôle au-delà d'elle-même, dans un plus vaste contexte. Vienne, qui fut l'ancienne capitale d'un grand empire, n'a jamais supporté d'être la capitale d'un petit État. D'abord, elle a voulu l'annexion rapide au Reich allemand. Et puis, quand la possibilité s'est offerte, deux tiers de la population ont voté oui à l'adhésion à l'Union européenne, car Vienne rêvait toujours de jouer un rôle au sein d'un grand continent. Vous venez aujourd'hui à Vienne, et pour la première fois de son histoire, vous arrivez dans une ville qui veut se dégager de ce vaste contexte, en sortir, qui a la haine de ce qui est au-delà d'elle-même, qui veut mariner seule, toute seule, dans son propre jus. Vienne ne veut rien, pas d'étrangers, pas d'adhésion à l'UE, pas de touristes, hormis les hôteliers qui les accueillent volontiers. Posez la question aux Viennois dans la rue, vous verrez. Les touristes leur tapent sur le système, les demandeurs d'asile leur tapent sur le système, les étrangers leur tapent sur le système, l'Union européenne leur tape sur le système. Ils ne veulent participer à rien, ils veulent rester tout seuls. Pour la première fois dans l'histoire de cette ville, Vienne veut être seule. C'est du jamais vu. C'est pourquoi moi, je repars.
Ville-monde Vienne, l'esprit de la ville. Avec Xaver Bayer, Arnaud Geiger et Robert Ménas, écrivain. Ruth Beckermann, cinéaste, et Bernhard Leitner, architecte sonore. Remerciements à la ville de Vienne, Eva Gassner et Wolfgang Förster. Voix, Nicolas Le Poing et Werner Rappel. Traduction, Nathalie Marc et Christine Le Cerf. Coordination, Catherine Libert. Prise de son, Éric Boissé. Mixage, Éric Boissé et Alain Joubert. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Marie-Christine Closet et Véronique Villa.
Repartir pour revenir. Vienne est une ville aimable et quand on la connaît, on y retourne avec le sourire, écrivait Milena Jesenska. Revenons sur nos pas, comme dans la valse, nous tournons, retournons à Vienne dimanche prochain. Vienne, ville-monde, seconde escale, dimanche 31 janvier à 15h. Après Vienne, l'esprit de la ville, Vienne, la ville de l'esprit. Dans quelques instants, nous retrouvons Culture d'Islam et les voyages ville-monde continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster Vienne, ville-monde et toutes nos escales à travers le monde.